Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans la garde-robe présidentielle, il y a toujours un treillis. Emmanuel Macron va logiquement l'endosser demain au Mali. Le président de la République a prévu de se rendre sur la base de Gao pour saluer les troupes françaises de l'opération Barkhane. Sans doute sera-t-il accompagné de sa ministre des Armées, Sylvie Goulard. L'opération Barkhane, c'est 4000 militaires déployés au Sahel. Elle a pris le relais en août 2014 de l'opération Serval, qui visait à aider les forces maliennes à repousser différents groupes armés islamistes. En termes d'effectifs, il s'agit de la principale OPEX de l'armée française, idem d'ailleurs s'agissant de la zone géographique couverte, 5 pays au total. Alors qu'est-ce qu'une OPEX ? Il s'agit d'une opération extérieure, le déploiement opérationnel des forces armées. Il y a Barkhane donc, mais aussi Chamal en Syrie, en Irak, Daman au Liban. Quant à l'opération Sangaris en Centrafrique, elle a pris fin il y a quelques semaines seulement, le 31 octobre dernier. Les OPEX françaises auront marqué le quinquennat de ce président chef de guerre que fut François Hollande. Et faut-il les prolonger, les reconfigurer, y renoncer ? Les OPEX ont-elles fait leurs preuves ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos trois invités, à commencer par vous, Jérôme Pellistrandi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes colonel en exercice, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, la revue qui fête ces temps-ci son 800e, non pas anniversaire, ce qui ferait quand même un petit peu vieux, mais 800e numéro, ce qui n'est déjà pas si mal. Le premier était apparu en mai 1939.
Et oui, tout à fait. Donc, une date historique. Et depuis, la revue n'a pas cessé d'être publiée, sauf bien entendu de juin 40 à 1945.
Voilà, et la revue donc, qui publie son 800e numéro en ce mois de mai 2017. Je précise par ailleurs que vous avez, vous, comme militaire, participé à plusieurs OPEX dans votre carrière. Pour discuter avec vous, Elie Tenenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, au Centre des études de sécurité. Vous travaillez notamment sur la problématique des opérations militaires extérieures. Et puis troisième invité, Jean-Dominique Mercher, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à l'Opinion, vous y êtes en charge des questions militaires et stratégiques et vous tenez par ailleurs un blog qui est hébergé, je crois d'ailleurs, sur le site de l'Opinion. Secret Défense. Jean-Dominique Mercher, enfin comme vous autres d'ailleurs, vous avez forcément suivi l'actualité politique de ces dernières heures, la formation du nouveau gouvernement, la nomination de Sylvie Goulard non plus au ministère de la Défense mais au ministère des armées. Est-ce que ce changement d'appellation change quelque chose sur le fond, a priori, Jean-Dominique Mercher ?
Pour l'instant, on ne peut pas le savoir, en fait. C'est une surprise, parce que le terme de ministère des armées, il n'était plus employé depuis 1974. Le dernier ministre des armées était Robert Gallet. Le premier avait été Edmond Michelet, en 1945, nommé par le général de Gaulle. Et c'est vrai que depuis Valéry Giscard d'Estaing, l'habitude était de nommer des ministres de la Défense. Donc effectivement, là, on voit un Emmanuel Macron qui veut sans doute se mettre dans une filiation gaulliste assez assumée à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça peut changer au niveau du rôle du ministre des Armées ? Honnêtement, vraiment, on n'en sait rien. Il y a beaucoup d'équilibre interne dans ces institutions. Sera-t-elle une ministre forte ? Sera-t-elle une ministre faible ? Là, on verra dans les mois qui viennent.
Alors, je me disais, moi, en voyant ce changement d'appellation, Elie Tenenbaum, qu'on était peut-être dans une approche un peu plus fonctionnelle, finalement, de ce ministère. C'est-à-dire, on précise quelles sont les troupes et les personnes qui sont concernées davantage que sur une approche qui pourrait être doctrinaire ou stratégique. La défense, c'est de dire, voilà, on se défend si on nous attaque. À une époque, on a eu le ministère de la guerre qui avait une posture plus agressive. C'est peut-être quelque chose de plus neutre. Mais voilà, on est forcément obligé d'interpréter pour l'instant.
Je dirais pas forcément. On est effectivement aujourd'hui dans l'expectative. Tout le monde a été surpris par cette nouvelle nomination. La vraie question, en fait, au fond, c'est de savoir si cette nouvelle dénomination va changer le rapport de force qu'on avait jusqu'à présent entre les civils et les militaires au sein du ministère de la Défense, puisque l'appellation Défense, justement, était une émancipation des armées au sens strict. On a trois armées au sein du ministère de la Défense, la Marine, l'Armée de Terre et l'Armée de l'Air. Mais en plus, vous avez un certain nombre de civils de la Défense et d'agents civils de la Défense qui traitent d'un certain nombre de questions. Et finalement, ces civils de la Défense, notamment au cours des cinq dernières années du quinquennat et le quinquennat Le Drian, si je puis dire, au sein de l'hôtel de Brienne, avaient passablement renforcé en fait ce poids des civils de la défense en leur faveur, alors qu'on avait pu voir auparavant des militaires qui avaient quand même un vrai accès aux politiques. Donc la question, c'est est-ce que voilà, c'est un signal donné par le président Macron de renforcer son lien direct en tant que président avec les militaires, et du coup un ministre qui aurait plus de difficultés à s'affirmer. Mais ça, on le saura en fonction, encore une fois, des rapports de force politique, plus encore que fonctionnel ou institutionnel.
Pour rester encore un instant sur l'examen de ces signaux à travers la nomination donc, de cette ministre des Armées Sylvie Goulard, qui n'est pas connue a priori pour sa connaissance du sujet, mais qui est réputée pour son engagement au Parlement européen, justement en faveur de l'Europe. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on entend très très souvent dans les médias, qui est réputée pour être une députée européenne extrêmement active. Est-ce que là, Jean-Dominique Mercher, on peut considérer que c'est aussi un signe qui est envoyé aux Européens et peut-être à l'Allemagne pour dire, bah voilà, ces projets de coopération en matière de défense, sans aller peut-être jusqu'à parler d'une défense européenne, voilà, c'est quelque chose vers lequel on a envie d'aller?
Oui, clairement, c'est un axe essentiel, je pense, de la politique d'Emmanuel Macron. L'Europe, il a été élu sur ce programme, c'est un Européen convaincu. Sylvie Goulard est une militante pro-européenne extrêmement affirmée, très connue également. Après, il y a la réalité des choses, et la réalité des choses, c'est que la défense européenne, ce n'est pas le cadre principal de l'action d'un ministre de la Défense, quelles que soient ses intentions. Il y a l'OTAN, il y a les opérations, il y a du bilatéral, il y a du commerce, il y a les armées. Elle va sans doute énormément parler de défense européenne, parce que c'est son fonds de commerce, si je puis dire, mais en même temps, les réalisations, eh bien, on verra bien, ça fait quand même des années qu'on parle de défense européenne. J'ai moi-même écrit un livre qui s'appelait « La grande illusion » en parlant de la défense européenne, donc je reste sceptique sur les capacités de déboucher rapidement sur des réalisations très importantes en la matière.
Bon, alors on va passer à présent à notre sujet du soir, les OPEX. Je ne vous ai pas demandé ce que vous pensiez de cette nomination et de ces nouvelles appellations, Jérôme Pellistrandi, puisque je rappelle, vous êtes colonel, vous êtes soumis, on va dire, à un devoir de réserve sur certains sujets. Là, on vous a invité pour parler de ces opérations extérieures et donc avec, dans l'actualité, cette visite présidentielle demain sur la base de Gao. Symboliquement, est-ce que c'est quelque chose d'important quand le chef de l'État, qui est aussi le chef des armées, se déplace auprès des militaires ?
Oui, tout à fait. Et quand on reprend l'histoire des précédents présidents, ils se sont tous attachés à démontrer très rapidement un geste fort qui conforte le pouvoir de chef des armées. Alors, je rappelle par exemple que le président Mitterrand était allé très rapidement sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins pour bien montrer que c'était lui le chef des armées à travers la dissuasion nucléaire. Là, le geste du président Macron, effectivement, est extrêmement important, quelques jours après sa prise de fonction, donc d'aller sur le terrain, d'aller au contact des troupes, dans un contexte qui est difficile, qui est extrêmement exigeant. C'est un théâtre face à un adversaire mouvant, un adversaire dangereux. Et donc, de la part du président Macron, effectivement, c'est bien l'affirmation de sa préoccupation et de son rôle de chef des armées. Donc, c'est un signal extrêmement positif pour toute la communauté de défense.
Élie Tenenbaum, on est avant tout dans un geste symbolique à travers cette première visite.
Symbolique, mais également opérationnel, et je pense de signal que le président Macron donne effectivement à la fois aux armées, mais aussi au reste du monde, pour montrer qu'il a l'intention de tenir les engagements qui ont été pris au cours du quinquennat précédent, et notamment dans ce théâtre extrêmement important et dans lequel la France est au premier rang, qui est celui de la bande sahélo-saharienne de l'opération Barkhane. Et donc voilà, un signal d'engagement, on va dire, et de l'intention d'honorer les engagements militaires qui sont ceux de la France depuis maintenant de nombreuses années.
Voilà, un signal qui s'inscrit dans une forme de tradition pour les nouveaux chefs de l'État qui essaient d'aller donc sur le terrain auprès des forces militaires françaises qui sont déployées à l'étranger. Ça avait été le cas pour François Hollande. En mai 2012, le 25 mai, il se rend en Afghanistan. Est-ce que c'est une visite seulement symbolique? Peut-être pas à l'époque.
Non, parce que...
Alors justement, on va écouter.
François Hollande est en visite surprise en Afghanistan. Quelques jours après avoir annoncé lors du sommet de l'OTAN le retrait des troupes françaises à la fin 2012, le nouveau chef d'État est arrivé ce matin à Kaboul. Accompagné des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, il a d'abord tenu une conférence de presse commune avec Hamid Karzai. Il s'est ensuite rendu dans la base de Nijrab en Kapisa. C'est là où sont stationnés la plupart des soldats français. François Hollande veut leur expliquer lui-même pourquoi il a décidé d'anticiper leur retrait un an avant la date annoncée par Nicolas Sarkozy et deux ans avant celui de la totalité de la force de l'OTAN.
Voilà, extrait d'un reportage de l'époque signé Euronews. Jean-Dominique Mercher, vous alliez intervenir parce que justement je voulais vous poser la question. Est-ce que on peut imaginer qu'au-delà du symbole, Emmanuel Macron fasse des annonces, alors peut-être pas une annonce similaire qui reviendrait du coup à dire, bah voilà, on se désengage du Sahel, mais est-ce que ça peut servir à autre chose, cette visite ?
Non, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron pourra annoncer une chose comme ça, même si il a été quand même parfois assez distant en disant « les opérations militaires c'est bien, mais il ne faut s'engager dans les opérations militaires que si nous avons des solutions politiques à l'issue ». Il l'a beaucoup répété au cours de sa campagne. Non, le reportage que vous rediffusiez est très intéressant parce que quand François Hollande arrive en 2012, la première chose qu'il fait, et il va sur le terrain pour l'annoncer, c'est le retrait de l'Afghanistan. Et tout le monde à l'époque se dit, moi le premier, nous tous ici, on commande ça en disant, finalement, François Hollande, il s'intéresse pas vraiment aux affaires militaires. Son principal engagement de campagne, c'est le retrait des troupes d'Afghanistan. Et donc, l'armée va se replier sur le territoire national. On parlait alors dans l'armée de terre de betteravisation, en disant on va se retrouver dans les champs de betteraves de l'Est de la France.
Et puis, il faut rappeler que le retrait était prévu, mais qu'il a été anticipé d'un an.
Le retrait était prévu par Nicolas Sarkozy, et il a été accéléré d'une année. Patatras, quelques mois plus tard, début 2013, c'est l'intervention au Mali, c'est l'opération Serval, et là, on va voir, au contraire, un président de la République qui, contrairement à toutes les prévisions, va être sans doute un des plus interventionnistes de la Ve République, avec le Mali, la Centrafrique, l'Irak. Il voulait intervenir militairement en Syrie et les Américains l'en ont empêché. Donc il faut se méfier. Parfois, les premières choses que fait un président ne correspondent pas à ce qu'il va faire quelques mois plus tard. Donc soyons prudents dans ce qu'on est en train de dire d'Emmanuel Macron, parce que l'expérience récente nous prouve que parfois on se trompe.
Eli Tenenbaum, oui.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Dominique Mercher. On a effectivement une évolution personnelle des chefs d'État, et Hollande s'est clairement découvert une appétence qu'il n'avait pas imaginée pour ces questions militaires. Mais on a aussi une évolution du contexte géostratégique et des menaces sur la France. Et il y avait vraiment, dans l'opinion française et dans la classe politique française, une évaluation de l'intérêt stratégique pour la France d'être présent en Afghanistan qui faisait débat, pour dire le moins, alors qu'à partir du Mali et ensuite l'engrenage, si je puis dire, de la menace terroriste qui se rapproche à la fois des intérêts français et de la France, pour finir par la frapper directement en 2015, une prise de conscience quand même des enjeux, des menaces et des prises, une prise de conscience de ces enjeux militaires qui est quand même beaucoup plus grande dans la classe politique et qui va aussi pousser ou tirer ces engagements militaires particuliers de la présidence Hollande.
Alors ça nous amène justement sur la question des conditions du déclenchement de ces opérations extérieures, Jérôme Pélistrandi. Est-ce que on est dans une forme de continuité depuis que ces OPEX existent, c'est-à-dire finalement c'est le contexte international qui décide de ces interventions, ou bien est-ce qu'on est avant tout dans une approche peut-être doctrinale de ce que représentent ces opérations, et qu'en fonction des intérêts de la France, eh ben, ces opérations sont déclenchés ou ils ne le sont pas?
Alors, il faut effectivement faire un retour en arrière. L'année prochaine, on va fêter les 40 ans de l'opération menée à Colvézi. Et je crois que c'est quand même un bon exemple. La France n'est pas en mesure de choisir ses OPEX. Il n'y a pas des OPEX que l'on va faire parce qu'on a envie d'aller en opération. C'est, comme le disait Eli Tenenbaum, une réalité géopolitique. Et donc, nous sommes confrontés à une augmentation des crises, des crises qui, aujourd'hui, finalement, s'inscrivent dans la durée. Il est un fait que, il y a quelques années, on espérait que ces opérations extérieures avaient un début et rapidement pouvaient être suivies d'un désengagement. Or, on voit bien que derrière, il y a aussi, se pose toute la question de la gouvernance des États concernés, la reconstruction d'institutions civiles fiables, et que donc le volet militaire est essentiel, mais n'est pas suffisant. Et donc, on se rend compte que chaque fois que l'on s'est retiré rapidement de certains théâtres, au final, il a fallu y revenir.
Parce que derrière... Lesquels, par exemple ?
Par exemple, c'est la Centrafrique. Et donc, derrière, ces OPEX, sachant qu'elles ne sont pas de même nature, on ne peut pas mettre sur le même plan ce qui se passe au Sahel, où il y a un ennemi clairement désignés, qui sont des djihadistes venant du nord, alimentés par des courants, des trafics, et ainsi de suite. Et par exemple, ce qui se passe en Centrafrique, où c'est plus une question, effectivement, de conflits civils. Donc, une responsabilité majeure pour la France, et je rappelle aussi que la France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous sommes confrontés à cette responsabilité. Ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, des 26 autres États membres de l'Union européenne.
La France a des responsabilités particulières qui font qu'elle va se retrouver engagée des opérations extérieures que n'engageraient pas forcément d'autres pays, Jean-Dominique Mercher, pardonne-moi.
C'est aussi parce qu'elle le souhaite, parce que ça fait partie de cette posture politique qu'on appelle dans la tradition gaulliste la grandeur de la France, que les présidents souhaitent que la France s'engage sur différents théâtres. Voilà. Mais si l'on réfléchit bien, le plus grand geste politique d'un président de la République récemment a été justement de ne pas s'engager dans une opération extérieure, et je pense évidemment à Jacques Chirac refusant d'aller en Irak. Donc, il faut voir, la grandeur, c'est aussi parfois de dire non, c'est une erreur, la solution militaire ne peut pas, n'apportera pas d'issue politique. On se souvient à la fois de Jacques Chirac en 2003, et de ce célèbre discours du général de Gaulle en 1966 à Phnom Penh, où il va devant les Américains qui sont au Vietnam en disant « il n'y a pas de solution militaire au problème de l'Indochine et au problème du Vietnam ». Et donc ça aussi, c'est de la grande politique. Et justement, aujourd'hui, faute sans doute de telle posture, on a été beaucoup dans un interventionnisme militaire dont le bilan n'est pas toujours extrêmement génial.
Mais est-ce que ça veut dire que ces opérations extérieures, elles se déroulaient dans un cadre qui autrefois était peut-être un cadre strictement national, et qu'aujourd'hui il y a une forme de contrainte de la part des partenaires de la France qui font que la France justement s'engage davantage?
Non, les interventions se font dans différents cadres, elles se font dans des cadres onusiens, otaniens, européens, bilatérales, nationales, enfin, non, le pouvoir français est totalement souverain en la matière, il décide du cadre dans lequel il veut agir.
Jérôme Pélistrandé,
de ne pas agir. Oui, je voudrais souligner aussi qu'il y a un certain nombre d'opérations extérieures qui ont été conduites, qui n'étaient pas forcément des opérations dans un cadre, offensif, mais de soutien à la population. Je prendrais par exemple, lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola, il y a 2 ans, les armées, et en particulier le service de santé des armées, ont agi de manière très efficace en soutien des services locaux de santé. Donc il y a aussi ces éléments-là. Donc il y a un spectre de capacités. Alors là, bien sûr, c'est un choix du chef de l'État, mais il y a un spectre de capacités qui permet de répondre allant de l'action humanitaire jusqu'effectivement à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en Syrie ou en Irak.
On peut dire que ce spectre assez large, finalement, il est volontairement entretenu comme tel, Elie Tenenbaum, pour pouvoir répondre en fonction différents cas.
On a un éventail politico-militaire d'actions possibles à l'international, dans lesquelles les interventions militaires sont une des options et absolument pas les seules. Mais je voulais revenir un petit peu sur la dimension effectivement multinationale ou autonome. On a quand même une tendance qui commence à apparaître comme longue. Alors la question, c'est de voir si le président Macron continue à prolonger. Mais c'est-à-dire qu'on avait, grosso modo, dans les années 90-2000, une très forte proportion des opérations extérieures françaises au sein de coalitions multinationales à tendance onusienne, ou dans le cadre de l'Afghanistan sur la fin des années 2000, dans le cadre OTAN, qui correspondait à peu près à 80% des troupes françaises en OPEX, qui était sous un cadre multinational. On est aujourd'hui descendu à 30%, c'est-à-dire qu'on a une montée en puissance des opérations en autonomie, avec une volonté de la France, finalement, d'utiliser le multinational plus pour passer le relais, pour faire le travail après que le gros de l'effort a été fourni par la France en autonomie. Et donc, de ce point de vue-là, on a quand même, finalement, une sorte de retour d'une certaine manière au national et une fin du multinational.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Les OPEX ont-elles fait leurs preuves? C'est la question dont nous débattons ce soir dans Du grain à moudre avec Elie Tenenbaum qui est chercheur à l'IFRI, Jean-Dominique Mercher qui est journaliste à l'Opinion et Jérôme Pellistrandi qui est colonel et qui est rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Je reviens sur ce que disait Elie Tenenbaum et sur ce changement dans les proportions entre des opérations qui sont faites dans un cadre national et d'autres dans un cadre plus coopératif, autant ou ONU. Est-ce que ce changement-là, il est lié à une volonté de la France peut-être d'être davantage autonome sur ses opérations, ou est-ce que c'est parce que ses partenaires sont moins partants pour l'accompagner? Jean-Dominique Mercher.
Je pense que c'est avant tout une affaire de circonstances, même si il y a une très forte réticence dans l'institution militaire française à participer à des opérations dans le cadre des Nations Unies. Casque bleu. Le souvenir de la Bosnie de 1992 à 95 est un souvenir terrible, terriblement traumatisant pour l'armée française. Cette impuissance des casques bleus, cette impuissance assumée des casques bleus. On a perdu quand même en Bosnie près de 80 soldats, je crois, sous le casque bleu. Les règles d'engagement interdisait à l'armée française de répondre aux gens qui lui tiraient dessus. Et donc ça, il y a quand même une forte réticence à ne pas y aller dans ce cadre-là. Mais effectivement, le plus confortable, c'est d'y aller en national. C'est l'opération Barkhane, celle que le président de la République voit demain.
C'est peut-être aussi le plus
prestigieux,
non ? Parce que
là, on est maître chez soi, ouais. Même si on coopère, et assez étroitement d'ailleurs, avec les armées locales. Mais on coopère avec des gens qui ne sont pas du tout du même niveau militaire que l'armée française. Donc c'est très confortable. C'est moins confortable quand on coopère avec les Américains qui, en gros, nous laissent faire ce qu'ils souhaitent que nous fassions.
Jérôme Pellistrandi.
Oui, tout à fait. Je crois que cette dimension, comme le disait Jean-Dominique Mercher, est fondamentale. Oui, ce qui s'est passé en Bosnie a profondément marqué les armées dans le cadre de l'organisation du commandement. Ce qui ne veut pas dire que nous refusons. Mais ce qui était souligné, alors, et d'ailleurs nous participons sur un certain nombre d'opérations sous casque bleu. Par exemple, au Liban, ça reste une opération sous casque bleu. Mais avec des règles d'engagement qui permettent de répondre. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et et on le voit si on se réfère notamment avec ce qui s'est passé sur le territoire national. Nos soldats, ils sont là pour agir et non pas pour être des cibles.
Quand vous dites avec des règles d'engagement qui permettent de répondre, c'est-à-dire qui permettent de répondre rapidement. C'est ça,
oui,
ce que vous voulez dire.
Que ce qui s'est passé pendant la Bosnie était absolument complètement ubuesque, avec des règles d'engagement qui ne permettaient pas une décision sur le terrain. Aujourd'hui, nos forces casque bleu au Liban sont en mesure, face à une éventuelle agression, de pouvoir riposter et jouer justement leur rôle dissuasif.
Sur la rapidité de la riposte, petite parenthèse, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une parenthèse d'ailleurs, mais où est-ce qu'on en est de cette force d'intervention rapide de l'ONU qui qu'on annonce régulièrement, non ? Personne ? Non ?
Je crois qu'elle est restée dans les limbes et dans les cartons. Non, mais effectivement, il y a régulièrement des projets au département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour renforcer les compétences, notamment en matière d'imposition de la paix, avec une force casque bleu qui serait plus active et proactive, mais on se heurte pratiquement systématiquement au même problème, les désaccords au sein du Conseil de sécurité et le peu d'appétence des grandes puissances pour une force de police internationale.
Bon, alors je referme cette parenthèse et je reviens aux opérations extérieures de la France. Jérôme Pélistrandi, ça représente quoi aujourd'hui ces opérations extérieures, sans forcément être totalement exhaustif, mais c'est combien d'hommes, combien de pays ?
C'est environ 30 000 militaires français engagés. Alors, en considérant également l'opération Sentinelle sur le territoire national, donc à peu près 13 000 hommes. Donc, une opération principale.
C'est-à-dire, les militaires qui sont déployés sur le territoire national, c'est considéré comme, ça rentre dans le cadre des opérations extérieures.
Pas extérieures, d'accord. Ils sont engagés en opération.
D'accord.
Voilà, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que à l'heure où je vous parle, donc il y a au sein de la communauté militaire 30 000 qui sont engagés directement, sachant que les autres participent au soutien, à l'entraînement, et ainsi de suite. Donc c'est une charge effectivement extrêmement lourde, qui répond d'ailleurs donc à des objectifs politiques, avec donc l'opération Barkhane, environ 4 000 militaires. Alors les chiffres fluctuent en fonction des relèves et certains moments.
Donc je rappelle Barkhane, hein, c'est le Sahel, le Maïf et puis les pays voisins du Mali.
Chamal, c'est donc la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak, donc c'est à peu près 1200 militaires. 900 militaires dans le cadre de l'opération Daman au Liban. Et ensuite, il y a d'autres opérations qu'il ne faut pas oublier. C'est par exemple en océan Indien, nous participons à la lutte contre la piraterie et il y a eu une recrudescence des actes de piraterie depuis le début de l'année. C'est en au golfe de Guinée. Alors, par contre, ces opérations-là se font en partenariat dans un cadre multinational et en particulier avec les États riverains, je pense au golfe de Guinée, parce que c'est extrêmement important de travailler donc en coopération avec eux.
Jean-Dominique Mercher, décidément, je ne vais pas y arriver. Désolé. Elie Tenenbaum, ces opérations-là, ce sont des opérations qui forcément coûtent cher, qui coûtent cher en hommes, qui coûtent cher en moyens matériels. Est-ce que l'armée française, en tout cas, a les moyens de mener de telles opérations aujourd'hui ?
Oui, parce que leur coût n'est quand même pas si considérable. En moyenne, depuis les 10 dernières années, un peu moins de 10 ans, les opérations extérieures coûtent environ 1 milliard d'euros par an.
Le problème, c'est que c'est sous-estimé, le coût, manifestement. D'après l'apport des comptes, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'après...
Là, ce sont des arguties un peu budgétaires, un peu compliquées. En fait, elles sont sous-évaluées dans le budget initial, mais elles sont refinancées ensuite par un collectif budgétaire. C'est du tripatouillage budgétaire, voilà. En gros, ça coûte 1 milliard par an depuis le début des années 2010. Rapportons ce chiffre au budget de la défense qui est supérieur à 30 milliards. Évidemment, donc on est dans des. C'est une petite partie du budget de la défense. On ne double pas le budget de la défense parce qu'on fait des opérations extérieures. Donc c'est supportable. C'est beaucoup d'argent, 1 milliard d'euros par an, mais ça reste quelque chose de supportable. Alors il y a un autre coût, effectivement, c'est que ça pèse beaucoup sur les hommes qui sont engagés, y compris parce qu'il y a des morts. Sahel, en 4 ans, 19 morts. Il y a aussi de nombreux blessés, très nombreux blessés, qui ne sont pas simplement des blessés physiques, mais qui reviennent avec des blessures mentales. Donc ça pèse, c'est un vrai coup humain. Et puis, le matériel, évidemment, s'use. Mais après tout, si on a du matériel, c'est aussi pour de temps en temps s'en servir. Donc effectivement, ça coûte de l'argent. Mais bon, ça reste... tout à fait supportable. On n'est pas obligé tous les ans de faire des investissements considérables pour l'OAR. Mais c'est vrai que ça use le potentiel militaire qu'il faut songer à renouveler.
Et l'état d'un
homme ? Et puis il faut prendre en compte que ce développement des opérations, enfin cette implication des opérations extérieures arrive dans un contexte où on a une défense qui a réduit de façon absolument continue depuis la fin de la guerre froide. Pour donner une idée, en 2010, il y a 7 ans, on avait 23 000 hommes qui étaient en opération. Aujourd'hui, le colonel Pellissandi nous a donné 30 000 hommes. Sauf que les 23 000 de l'époque, ils étaient dans une armée de 240 000 hommes et aujourd'hui, on en a perdu 40 000. Donc c'est-à-dire que la proportion des opérations dans le dispositif global, dans les effectifs globaux des militaires a augmenté et ça entraîne une pression considérable sur les effectifs et on l'a vu notamment depuis janvier 2015 avec le développement de l'opération Sentinelle et donc c'est 10 000 hommes sur le territoire national, un impact très clair sur la réduction de l'entraînement. Avec pour l'armée de terre des journées de préparation opérationnelle qui sont en chute libre, des heures de vol pour les pilotes de chasse qui sont pas aux standards internationaux, etc. Donc quand même, disons un poids de l'usure effectivement des hommes et des esprits, mais aussi des capacités au sens le plus complet du terme qui sont aujourd'hui sous tension.
Oui, pour vous donner quelques exemples, les véhicules blindés qu'on utilise au Sahel, Barkhane, ils ont été conçus dans les années 70. Le véhicule de l'Aveyron blindé, il a été conçu pour, à l'époque, faire 1000 km par an. En Afghanistan, ces véhicules faisaient 1000 km par mois. Aujourd'hui, c'est 1000 km par semaine. Donc vous voyez le degré d'usure, et donc effectivement, il faut les entretenir, il faut les renouveler. Autre point particulier qui est quand même à souligner, c'est le durcissement des engagements. Par exemple, en Irak, nos unités qui sont en appui, notamment je pense pour Mossoul, sont confrontées à un environnement extrêmement dangereux, avec un risque chimique, parce que là-bas, c'est une réalité. Et donc, ce contexte est très prégnant et nécessite, comme le disait Elie Tenenbaum, des soldats entraînés. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de combat de haute intensité.
Alors, une des questions qu'on voulait aussi se poser ce soir, c'était de savoir si ces opérations extérieures sont efficaces. Pour juger de l'efficacité des OPEX, il faut pouvoir peut-être évaluer la façon dont les objectifs sont remplis. Est-ce que les objectifs de ces opérations sont suffisamment clairs pour qu'on puisse juger, à un moment donné, de leur réussite ou de leur échec ou d'un entre-deux, Elie Tenenbaum?
Alors, en général, elles sont claires pour le chef de l'opération, le chef militaire de l'opération, qui reçoit effectivement, on va dire, un certain nombre d'objectifs, d'effets majeurs à obtenir. Maintenant, il y a un véritable décalage entre la feuille de route, si je puis dire, que va recevoir un chef de théâtre et les attentes perçues par la classe politique et la population. Typiquement, une opération comme celle de Sangaris en Centrafrique, les gens estime que l'opération n'a pas réussi parce que, quand on voit la situation de la République centrafricaine aujourd'hui, on estime qu'elle n'est pas forcément satisfaisante et donc c'est la faute de l'opération qui n'a pas réussi. Mais si on regarde les objectifs qui avaient été fixés à l'opération, c'est-à-dire limiter les violences de masse au moment où de l'intervention et ensuite passer le relais à une force de l'ONU qui puisse stabiliser dans la longue durée, ces objectifs-là ont été remplis. Donc il y a des objectifs qui sont fixés maintenant qui correspondent pas forcément aux attentes politiques internationales et de l'opinion publique.
Vous êtes d'accord avec ça sur ce décalage, Jean-Dominique Lemercher?
Oui, l'action militaire, elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans le cadre d'un projet politique, d'une solution politique. Et là, le bilan n'est quand même pas extraordinaire. Si on dépasse le cadre des opérations militaires françaises, mais en intégrant les opérations militaires françaises, on voit quand même que les interventions en Irak, en Syrie, sont aujourd'hui sans aucune perspective politique. On peut parler de la Libye, on peut parler du le Mali, où se rend le président de la République demain. Il y a un gros problème politique. On voit bien qu'il y a un décalage entre ce que veut faire le pouvoir malien, élu par la population malienne, le président malien, qui est prêt à négocier avec une partie des djihadistes, absolument contre notre avis.
Parce que ces questions politiques n'ont pas été anticipées.
Parce que ces questions politiques, oui. Et parfois, et il arrive même que l'action militaire permette de masquer la solution politique, de dire bon, on va agir, les militaires vont faire quelque chose, on crée des situations de fait, des rapports de force à un moment, et puis ensuite on voit. Le problème, c'est que regardez l'Afghanistan. On a perdu des dizaines d'hommes en Afghanistan. Les talibans sont toujours aussi puissants en Afghanistan. Et les Américains sont obligés d'y retourner. Donc on voit bien que ça... Et les opérations en Afghanistan datent de 2001. Et on voit que l'action militaire seule, même entourée de discussions politiques, n'aboutit à rien. Ça, c'est quand même ce qu'on voit. On est aujourd'hui en 2017 et la guerre continue en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Syrie, au Mali. Et donc, il faut quand même un moment s'interroger sur la pertinence des opérations militaires.
Mais est-ce que
sans
ça n'est
les
pas
condamner
aussi...
par principe. Parce que l'idée de les condamner par principe est absolument stupide. Il faut des opérations militaires, évidemment. Mais quand même, si on regarde le bilan de ces dernières années, il n'est pas génial. On voit, on est toujours coincé avec 900 hommes au Liban, bon voilà, depuis 40 ans, bon ok, est-ce que c'est bien ? Et on est toujours... Alors il y a des opérations qui ont débouché, par exemple, on a évité sans doute un drame épouvantable en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui on voit que la Côte d'Ivoire repart, se développe, devient la puissance. Là, c'est une réussite. Dans les Balkans, on a stabilisé la situation, mais 20 ans après avoir stabilisé la situation, il ne se passe toujours rien, et la situation se dégrade dans tous les pays balkaniques. Donc, interrogeons-nous sur le sens politique de tout ça.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi parfois parce qu'il manque le relais de la diplomatie ? Est-ce qu'on n'en demande pas en tout cas trop aux militaires ?
Oui.
C'est-à-dire finalement d'exiger d'eux qu'à la fois ils règlent une situation de conflit et que derrière ils participent à la reconstruction politique, la reconstruction de la société civile. Jérôme Pellistrandi.
Oui, mais je crois que justement c'est l'un des traits caractéristiques de notre histoire militaire. C'est-à-dire que depuis le milieu du 19e siècle et de l'aventure coloniale française, nos armées ont été souvent, par rapport à un pouvoir politique défaillant, en devoir de prendre en charge un certain nombre de choses qui ne leur appartenaient pas. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien comprendre que ces opérations s'inscrivent dans un temps très long. Ce ne sont pas des confrontations entre États. Et donc, cette dimension de la longueur doit être anticipée, et notamment par le politique, le diplomatique, et bien être conscient qu'on s'engage, non pas sur 18 mois, mais ça peut être 5, 10, 15 ans. Et là, est-ce que le pays est prêt à en accepter le coût ?
Jérôme, nous sommes en Afghanistan, enfin, les Occidentaux sont en Afghanistan depuis 17 ans, enfin 16 ans, et les talibans sont toujours là, et il faut, la culture du pavot est toujours là, et les femmes sont toujours voilées, et donc, au bout de 16 ans, on peut à un moment se dire, essayons de voir si ça marche. Manifestement, ça ne marche pas.
Est-ce que pour gérer cette temporalité, cette complexité, on peut imaginer qu'avoir aujourd'hui au Quai d'Orsay comme ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, ça peut-être justement aider à avoir cette double vision si nécessaire, Elie Tenenbaum.
Ça aidera il est dans une logique de coopération et de complémentarité avec le ministère des Armées. Évidemment, ça peut aussi poser des problèmes s'ils sont dans une logique de concurrence, ce que évidemment on ne souhaite pas. Mais je voulais revenir sur la discussion, sur cette question des résultats stratégiques finalement de long terme des opérations extérieures. Il me semble que l'expérience française et plus généralement l'expérience occidentale des opérations extérieures nous amène à c'est l'école de la modestie en fait. C'est-à-dire que on a appris au cours de ces 10-20 années d'intervention que finalement il y a des limites d'une part à ce que la force peut réaliser en termes de résultats politiques et plus généralement des limites à ce que l'action extérieure peut réaliser. Et effectivement on est confronté que ce soit en Afghanistan, en Irak et en Syrie, ou aujourd'hui au Mali et dans le Sahel, à des sociétés qui sont en transformation, qui sont soumises à des forces extrêmement profondes, démographiques, culturelles, économiques, et que finalement l'action d'une puissance extérieure telle que la France et même les États-Unis a des limites à ce à quoi elle peut parvenir, et que finalement on peut canaliser, guider, mettre quelques stabiliser parfois, mais on ne peut pas transformer en profondeur ces dimensions.
Et ça demande sans doute du coup une autre pédagogie, on va dire, de ces opérations extérieures pour expliquer effectivement ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ne peuvent pas. Merci en tout cas à tous les trois justement de nous avoir éclairés sur ces questions. Merci. Jérôme Pellistrandi, donc je renvoie au numéro 800 de la revue de défense, la revue Défense Nationale dont vous êtes le rédacteur en chef. Merci beaucoup Jean-Dominique Mercher. Votre blog c'est Secret Défense et c'est hébergé sur le journal L'Opinion. Merci à vous, Elie Tedenbaum. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IFRI. Merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Philippine Lebray, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Alexandre Dang. On se retrouve demain à partir de 18h20 avec le Club des idées du Grain. Dans un instant, ce sera ping-pong avec Mathilde Serrel et ses invités, dont un invité mystère, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert avec Ardette?
Oui, mon premier concert, c'était Daniel Balavoine.
Ah, bravo.
Ah oui, à Clermont-Ferrand, voilà.
L'invité mystère, Luz, vous félicite.
Merci, Luz.
Alors, après avoir beaucoup écouté du Aerosmith et puis d'autres choses dans la voiture de ses parents, il a décidé de dessiner tous ses concerts. C'est un grand recueil de dessins et de danses dessinées qui est publié chez Futuropolis. Et avec lui, comme Martin Karl, qui lui va au concert de One Direction, c'est un tout autre genre.
Et bon, on vous retrouve dans un instant après le rappel des titres.